Nous poursuivons notre série de méditations sur le livre, le début là, du livre des Proverbes. Et nous arrivons cette semaine au passage suivant, hein, qui parle notamment de la pression de groupe. Et c'est Proverbes 1, versets 10 à 19. Proverbes 1, 10 à 19. Alors c'est un passage que j'avais appris par cœur, c'était l'époque où on apprenait des grands textes bibliques par cœur, à l'école du mercredi. Et j'avais appris ça quand j'avais 12-13 ans. Et bien sûr, je le garde encore en mémoire, à un verset près peut-être, mais voilà, c'est des grands passages qui accompagnent toute une vie. Et c'est des passages qui sont fondateurs pour toute une vie chrétienne. Et c'est qui garde toute leur actualité. Donc, Proverbes 1, 10 à 19. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Eux, par contre, contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. Seigneur, fais briller ta parole pour chacun de nous ce matin. Amen. Mon fils, alors on a déjà vu cette expression, mais je me permets de le rappeler, quand dans le livre des Proverbes, il est dit « mon fils hein, », on l'a vu précédemment, hein, c'est une façon de s'adresser au lecteur, c'est caractéristique d'une relation entre un enseignant et celui qui est enseigné. Hein. Le livre des Proverbes concerne tous les hommes et toutes les femmes. Hein, voilà. Et il concerne surtout celui ou celle qui veut écouter Dieu. Donc nous sommes tous des disciples, tous appelés à l'être et nous sommes tous concernés. Alors ce texte nous parle tout d'abord de l'attrait du gain et de la pression du groupe, une pression de groupe. L'auteur nous met en garde contre les mauvaises fréquentations. Ces mauvaises fréquentations qui peuvent nous entraîner dans des voies malhonnêtes. Alors on peut se demander, ce passage est-il pertinent pour la plupart d'entre nous? Parce que par exemple, personnellement, je n'ai jamais rencontré de gangsters. Hein, me proposant hein, d'aller avec eux pour voler, tuer, piller, tout ce qui va avec. Hein. Et si c'était le cas, leur proposition ne me tenterait pas. Hein. Alors en quoi ce passage des Proverbes peut-il me concerner, nous concerner aujourd'hui? Alors, il me semble que ces quelques lignes nous mettent en garde vis-à-vis de deux phénomènes que nous pouvons finalement tous rencontrer. Tout d'abord, l'attrait du gain, et ensuite, la pression du groupe. Nous pouvons tous être attirés par le péché, par les possibilités qu'il nous offre de nous enrichir rapidement. Or, si nous nous laissons entraîner par ce péché, si nous refusons d'écouter la vérité, nous deviendrons esclaves de nos désirs, contraints de satisfaire nos désirs sans arrêt. J'ai entendu parler d'un chrétien qui a décidé d'arrêter sa carrière politique au sein d'un parti, car s'il voulait monter plus haut, il aurait dû se corrompre, accepter la corruption. J'ai entendu parler de quelqu'un qui a démissionné de son emploi au sein d'une compagnie d'assurance, car celle-ci avait des pratiques commerciales malhonnêtes, particulièrement envers les personnes vulnérables, les personnes âgées. J'ai entendu parler d'un agent immobilier qui a démissionné d'une agence car les techniques de vente pratiquées étaient déloyales, frauduleuses. J'ai entendu parler d'un pasteur hein, qui a aussi démissionné car l'équipe pastorale avec qui il travaillait était plus motivée par le pouvoir, les avantages du pouvoir que par l'amour de l'Église. Alors, mais évidemment, on ne dit pas que ces professions sont toutes corrompues. Mais la tentation est partout. Et c'est un fait, hein, on peut être tenté par le pouvoir, par la gloire, par l'argent, et cela peut commencer par, et ça commence souvent, par des choses insignifiantes. Hein. Et ici, on parle de petites choses dans ce texte aussi. Hein. Des choses insignifiantes, par exemple, on récupère des marchandises tombées d'un camion, on fait un bouquet avec les fleurs d'un jardin public, hein. On fait affranchir son courrier par notre entreprise, etc. etc. Hein. Mais au fur et à mesure, cela va prendre de l'ampleur. Hein. Et on ne pourra plus s'arrêter. Hein. On met le petit doigt, comme dit la sagesse populaire, et c'est tout le bras hein, qui est pris dans le mouvement. Et on se rappelle qu'un des pièges préférés hein, du malin consiste dans la soif de posséder. Ça commence par la suggestion faite aux hommes hein, qu'il leur faut absolument certains biens hein, et qu'il leur faut absolument plus d'argent pour vivre, hein, vivre heureux. Ensuite, ce désir s'enflamme jusqu'à devenir une obsession dévorante. Donc, demandons à Dieu hein, de nous donner la sagesse d'identifier un mauvais désir et de nous donner la force de le vaincre hein, tant qu'il est temps, hein, c'est-à-dire avant qu'il ne nous détruise nous-mêmes. D'autant plus qu'il y a aussi la pression de groupe. Hein. On nous dit, il y a toujours des gens pour dire « Oh, t'es un naïf, toi. Ne sais-tu pas que tout le monde le fait hein ? Ne sais-tu un naïf, ne sais-tu pas que c'est comme ça que ça marche ? Et ça ne peut pas marcher autrement. Hein. » Et donc nous pouvons tous être attirés hein, par la tentation de faire comme les autres hein, pour faire partie d'un groupe. Hein. Faire partie d'un groupe peut nous amener à de graves compromis également. Et puis, ce texte met en avant le pouvoir autodestructeur du mal. Hein. Et on a besoin de, cette savoir ça. Dans les trois derniers versets, ce passage des Proverbes affirme le pouvoir autodestructeur du mal. Puisque nous vivons dans un monde déchu, de nombreuses injustices resteront impunies jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, la plupart du temps, on peut le dire quand même, la justice de Dieu s'exerce déjà, partiellement, hein, mais elle s'exerce déjà dans le cours de l'histoire. Le mal porte en lui-même les semences de sa propre destruction, nous dit la Bible. Non seulement le mal est source d'ennui, nous dit la Bible, mais le mal mène à l'insatisfaction et au vide profond. Le psaume 7, verset 15, nous dit par exemple, « Le méchant est en travail. Pourquoi » Pourquoi ? Pour l'injustice. Il conçoit quoi ? L'iniquité. Et il enfante la fausseté. Et c'est ainsi que le mal que l'on fait aussi se retourne contre nous-mêmes, nous dit la Bible. On tombe soi-même dans la fosse que l'on a creusée pour les autres. Donc, ceux qui détestent les autres seront à leur tour détestés. Les trompeurs seront trompés. Les cancaniers, ceux qui répandent des médisances, des calomnies, deviendront eux-mêmes la cible de cancans, de médisances, de calomnies. Alors, gardons bien ça en mémoire, jusqu'à ce que nous ne soyons plus intimidés, découragés ou tentés par la mauvaise manière d'agir environnante hein, qui semble à certains moments nous oppresser. Nous devons apprendre à faire nos choix, donc non sur la base d'intérêts visibles et immédiats hein, ou de plaisirs à court terme, mais en fonction des conséquences à long terme. Ça peut impliquer donc d'éviter les mauvaises compagnies qui veulent nous attirer dans des activités que nous savons douteuses. Nous ne pouvons pas flirter avec le péché et espérer en même temps que cela n'aura aucun impact sur notre vie tout court et sur notre vie spirituelle aussi. Nous devons choisir notre maître. Le livre des Proverbes met ça en évidence hein, et Jésus le rappelle aussi, on ne peut pas servir deux maîtres. Jésus a dit, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Luc, par exemple, 16, 13. Donc, c'est une invitation, et je termine par là, à servir Dieu seulement, à servir Dieu seul, dans tous les aspects de notre vie, par contre, sans en omettre aucun. Là, on a baptisé entièrement Dora et Esther. Et ceux qui prennent un engagement pour Dieu, il y a des blagues là-dessus, mais c'est pas en tirant autre chose, en disant j'ai été baptisé entièrement, sauf telle partie de ma vie, sauf tel domaine de ma vie. Non. Donc, c'est une invitation à servir Dieu seul dans tous les aspects de notre vie. Nous revenons donc au verset 7 du chapitre 1, la clé de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Alors, concluons. Que Dieu renouvelle à tous, Dieu renouvelle notre foi, notre désir de ne servir que lui et de le servir dans tous les domaines de notre vie. Première chose. En ce jour de baptême, nous prions que Dieu nous garde, garde la baptisée, mais nous garde chacun dans ses voies, nous qui avons été baptisés et la nouvelle baptisée. Puis en ce jour d'élection, nous prions aussi pour nos hommes et femmes politiques. Dans les milieux politiques, et pas que là, on le sait bien, mais là aussi, dans les milieux politiques, on est parfois tenté de mettre en avant une belle image de soi, de rechercher le succès, les intérêts financiers, de faire carrière plutôt que de chercher le bien commun, le bien des plus petits. Donc, prions pour que ce soit de bonnes motivations qui orientent les décisions de nos élus, de ceux qui sortiront des élections. Nous ne remettons pas en question ici nos dirigeants, nous voulons simplement prier pour eux et tout déposer entre les mains du Seigneur. Amen.